La petite sirène. Hans Christian Andersen. Partie 1/2. Bien loin dans la mer, l'eau est bleue comme les feuilles de bluet, pure comme le verre le plus transparent, mais si profonde qu'il serait inutile d'y jeter l'ancre et qu'il faudrait y entasser une quantité infinie de tours d'église les unes sur les autres pour mesurer la distance du fond à la surface. C'est là que demeure le peuple de la mer. Mais n'allez pas croire que ce fond se compose seulement de sable blanc. Non. Il y croît des plantes et des arbres bizarres et si souples que le moindre mouvement de l'eau les fait s'agiter comme s'ils étaient vivants. Tous les poissons, grands et petits, vont et viennent entre les branches comme les oiseaux dans l'air. À l'endroit le plus profond se trouve le château du roi de la mer, dont les murs sont de corail, les fenêtres de belle ambre jaune et le toit de coquillages qui s'ouvrent et se ferment pour recevoir l'eau ou pour la rejeter. Chacun de ces coquillages referme des perles brillantes, dont la moindre ferait honneur à la couronne d'une reine. Depuis plusieurs années, le roi de la mer était veuf et sa vieille mère dirigeait sa maison. C'était une femme spirituelle, mais si fière de son rang qu'elle portait 12 huîtres à sa queue, tandis que les autres grands personnages n'en portaient que 6. Elle méritait des éloges pour les soins qu'elle prodiguait à ses 6 petites filles, toutes princesses charmantes. Cependant, la plus jeune était plus belle encore que les autres. Elle avait la peau douce et diaphane comme une feuille de rose, les yeux bleus comme un lac profond, mais elle n'avait pas de pieds. Ainsi que ses sœurs, son corps se terminait par une queue de poisson. Toute la journée, les enfants jouaient dans les grandes salles du château, où des fleurs vivantes poussaient sur les murs. Lorsqu'on ouvrait les fenêtres d'ambre jaune, les poissons y entraient comme chez nous les hirondelles, et ils mangeaient dans la main des petites sirènes qui les caressaient. Devant le château était un grand jardin, avec des arbres d'un bleu sombre ou d'un rouge de feu. Les fruits brillaient comme de l'or, et les fleurs, agitant sans cesse leurs tiges et leurs feuilles, ressemblaient à de petites flammes. Le sol se composait de sable blanc et fin, et une lueur bleue merveilleuse qui se répandait partout aurait fait croire qu'on était dans l'air, au milieu de l'azur plutôt que sous la mer. Les jours de calme, on pouvait apercevoir le soleil, semblable à une petite fleur de pourpre, versant la lumière de son calice. Chacune des princesses avait dans le jardin son petit terrain, qu'elle pouvait cultiver selon son bon plaisir. L'une lui donnait la forme d'une baleine, l'autre celle d'une sirène, mais la plus jeune fit le sien rond comme le soleil et n'y planta que des fleurs rouges comme lui. C'était une enfant bizarre, silencieuse et réfléchie. Lorsque ses sœurs jouaient avec différents objets provenant des bâtiments naufragés, elle s'amusait à parer une jolie statuette de marbre blanc, représentant un charmant petit garçon, placé sous un saule pleureur magnifique, couleur de rose, qui la couvrait d'une ombre violette. Son plus grand plaisir consistait à écouter des récits sur le monde où vivent les hommes. Toujours, elle priait sa vieille grand-mère de lui parler des vaisseaux, des villes, des hommes et des animaux. Elle s'étonnait surtout que sur la terre, les fleurs exhalassent un parfum qu'elles n'ont pas sous les eaux de la mer et que les forêts y fussent vertes. Elle ne pouvait pas s'imaginer comment les poissons chantaient et sautillaient sur les arbres. La grand-mère appelait les petits oiseaux des poissons, sans quoi elle ne se serait pas fait comprendre. « Lorsque vous aurez 15 ans, dit la grand-mère, je vous donnerai la permission de monter à la surface de la mer et de vous asseoir au clair de la lune sur des rochers pour voir passer les grands vaisseaux et faire connaissance avec les forêts et les villes. » L'année suivante, l'aînée des sœurs allait atteindre sa 15e année. Et comme il n'y avait qu'une année de différence entre chaque sœur, la plus jeune devait encore attendre 5 ans pour sortir du fond de la mer. Mais l'une promettait toujours à l'autre de lui faire le récit des merveilles qu'elle aurait vues à sa première sortie, car leur grand-mère ne parlait jamais assez et il y avait tant de choses qu'elle brûlait de savoir. La plus curieuse, c'était certes la plus jeune. Souvent, la nuit, elle se tenait auprès de la fenêtre ouverte, cherchant à percer de ses regards l'épaisseur de l'eau bleue que les poissons battaient de leurs nageoires et de leurs queues. Elle aperçut en effet la lune et les étoiles, mais elle lui paraissait toute pâle et considérablement grossie par l'eau. Lorsque quelques nuages noirs les voilaient, elle savait que c'était une baleine ou un navire chargé d'hommes qui nageaient au-dessus d'elle. Certes, ces hommes ne pensaient pas qu'une charmante petite sirène étendait au-dessous d'eux ses mains blanches vers la carène. Le jour vint où la princesse aînée atteignit sa 15e année et elle monta à la surface de la mer. À son retour, elle avait 1000 choses à raconter. « Oh !» disait-elle, « c'est délicieux de voir étendu au clair de la lune sur un banc de sable, au milieu de la mer calme, les rivages de la grande ville où les lumières brillent comme des centaines d'étoiles, d'entendre la musique harmonieuse, le son des cloches des églises et tout ce bruit d'hommes et de voitures. » Oh ! Comme sa petite sœur l'écoutait attentivement. Tous les soirs, debout à la fenêtre ouverte, regardant à travers l'énorme masse d'eau, elle rêvait à la grande ville, à son bruit et à ses lumières, et croyait entendre sonner les cloches tout près d'elle. L'année suivante, la seconde des sœurs reçut la permission de monter. Elle sortit sa tête de l'eau au moment où le soleil touchait à l'horizon. Et la magnificence de ce spectacle la ravit au dernier point. « Tout le ciel, disait-elle à son retour, ressemblait à de l'or, et la beauté des nuages était au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Ils passaient devant moi, rouges et violets, et au milieu d'eux volaient vers le soleil comme un long voile blanc, une bande de cygnes sauvages. Moi aussi, j'ai voulu nager vers le grand astre rouge, mais tout à coup, il a disparu. Et la lueur rose qui teignait la surface de la mer, ainsi que les nuages, s'évanouit bientôt. Puis vint le tour de la troisième sœur. C'était la plus hardie. Aussi, elle remonta le cours d'un large fleuve. Elle vit d'admirables collines plantées de vignes, de châteaux et de fermes situées au milieu de forêts superbes. Elle entendit le chant des oiseaux et la chaleur du soleil la força à se plonger plusieurs fois dans l'eau pour rafraîchir sa figure. Dans une baie, elle rencontra une foule de petits êtres humains qui jouaient en se baignant. Elle voulut jouer avec eux, mais ils se sauvèrent, tout effrayés, et un animal noir, c'était un chien, se mit à aboyer si terriblement qu'elle fut prise de peur et regagna promptement la pleine mer. Mais jamais elle ne put oublier les superbes forêts, les collines vertes et les gentils enfants qui savaient nager, quoiqu'ils n'eussent point de queue de poisson. La quatrième sœur, qui était moins hardie, aima mieux rester au milieu de la mer sauvage, où la vue s'étendait à plusieurs lieues et où le ciel s'arrondissait au-dessus de l'eau comme une grande cloche de verre. Elle apercevait de loin les navires, pas plus grands que des mouettes, les dauphins joyeux faisaient des culbutes et les baleines colossales lançaient des jets d'eau de leurs narines. le tour de la cinquième arriva. Son jour tomba précisément en hiver. Aussi vit-elle ce que les autres n'avaient pas encore pu voir. La mer avait une teinte verdâtre et partout nageaient, avec des formes bizarres et brillantes comme des diamants, des montagnes de glace. Chacune d'elles, disait la voyageuse, ressemble à une perle plus grosse que les tours d'église que bâtissent les hommes. Elle s'était assise sur une des plus grandes et tous les navigateurs se sauvaient de cet endroit où elle abandonnait sa longue chevelure au gré des vents. Le soir, un orage couvrit le ciel de nuées. Les éclairs brillèrent, le tonnerre gronda, tandis que la mer, noire et agitée, élevant les grands monceaux de glace, les faisait briller de l'éclat rouge des éclairs. Toutes les voiles furent serrées, la terreur se répandit partout. Mais elle, tranquillement assise sur sa montagne de glace, vit la foudre tomber en zigzag sur l'eau luisante. La première fois qu'une des sœurs sortait de l'eau, elle était toujours enchantée de toutes les nouvelles choses qu'elle apercevait. Mais une fois grandie, lorsqu'elle pouvait monter à loisir, le charme disparaissait et elle disait au bout d'un mois qu'en bas, tout était bien plus gentil et que rien ne valait son chez-soi. Souvent, le soir, les cinq sœurs, se tenant par le bras, montaient ainsi à la surface de l'eau. Elles avaient des voix enchanteresses, comme nulle créature humaine. Et si par hasard, quel courage leur faisait croire qu'un navire allait sombrer, elles nageaient devant lui et entonnaient des chants magnifiques sur la beauté du fond de la mer, invitant les marins à leur rendre visite. Mais ceux-ci ne pouvaient comprendre les paroles des sirènes, et ils ne virent jamais les magnificences qu'elles célébraient, car aussitôt le navire englouti, les hommes se noyaient, et leurs cadavres seuls arrivaient au château du roi de la mer. Pendant l'absence de ses cinq sœurs, la plus jeune, restée seule auprès de la fenêtre, les suivait du regard et avait envie de pleurer. Mais une sirène n'a point de larmes et son cœur en souffre davantage. « Oh, si j'avais 15 ans, disait-elle, je sens combien j'aimerais le monde d'en haut et les hommes qui l'habitent. » Le jour vint où elle eut 15 ans. « Tu vas partir, lui dit sa grand-mère, la vieille reine douairière. « Viens que je fasse ta toilette, comme à tes sœurs. » Et elle posa sur ses cheveux une couronne de lys blanc, dont chaque feuille était la moitié d'une perle. Puis, elle fit attacher à la queue de la princesse 8 grandes huîtres, pour désigner son rang élevé. « Comme elles me font mal !» dit la petite sirène. « Si l'on veut être bien habillé, il faut souffrir un peu. » répliqua la vieille reine. Cependant, la jeune fille aurait volontiers rejeté tout ce luxe et la lourde couronne qui pesait sur sa tête. Les fleurs rouges de son jardin lui allaient beaucoup mieux, mais elle n'osa pas faire d'observation. « Adieu, » dit-elle, et légère comme une bulle de savon, elle traversa l'eau. Lorsque sa tête apparut à la surface de la mer, le soleil venait de se coucher, mais les nuages brillaient encore comme des roses et de l'or, et l'étoile du soir étincelait au milieu du ciel. L'air était doux et frais, la mer paisible. Près de la petite sirène se trouvait un navire à 3 mâts. Il n'avait qu'une voile dehors à cause du calme, et les matelots étaient assis sur les vergues et sur les cordages. La musique et les chants y résonnaient sans cesse, et à l'approche de la nuit, on alluma 100 lanternes de diverses couleurs suspendues au cordage. On aurait cru voir les pavillons de toutes les nations. La petite sirène nagea jusqu'à la fenêtre de la grande chambre, et à chaque fois que l'eau la soulevait, elle apercevait à travers les vitres transparentes une quantité d'hommes magnifiquement habillés. Le plus beau d'entre eux était un jeune prince, aux grands cheveux noirs, âgé d'environ 16 ans. Et c'était pour célébrer sa fête que tous ces préparatifs avaient lieu. Les matelots dansaient sur le pont, et lorsque le jeune prince s'y montra, 100 fusées s'élevèrent dans les airs, répandant une lumière comme celle du jour. La petite sirène eut peur et s'enfonça dans l'eau, mais bientôt elle reparut, et alors toutes les étoiles du ciel semblèrent pleuvoir sur elle. Jamais elle n'avait vu un pareil feu d'artifice. De grands soleils tournaient, des poissons de feu fendaient l'air, et toute la mer, pure et calme, brillait. Sur le navire, on pouvait voir chaque petit cordage, et encore mieux les hommes. Oh, que le jeune prince était beau! Il serrait la main à tout le monde, parlait et souriait à chacun, tandis que la musique envoyait dans la nuit ses sons harmonieux. Il était tard, mais la petite sirène ne put se lasser d'admirer le vaisseau et le beau prince. Les lanternes ne brillaient plus et les coups de canon avaient cessé. Toutes les voiles furent successivement déployées et le vaisseau s'avança rapidement sur l'eau. La princesse le suivit, sans détourner un instant ses regards de la fenêtre, mais bientôt, la mer commença à s'agiter. Les vagues grossissaient et de grands nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel. Dans le lointain brillaient les éclairs. Un orage terrible se préparait. Le vaisseau se balançait sur la mer impétueuse, dans une marche rapide. Les vagues, se dressant comme de hautes montagnes, tantôt le faisaient rouler entre elles comme un cygne, tantôt l'élevaient sur leur cime. La petite sirène se plut d'abord à ce voyage accidenté, mais lorsque le vaisseau, subissant de violentes secousses, commença à craquer, lorsque tout à coup le mât se brisa comme un jonc, et que le vaisseau se pencha d'un côté tandis que l'eau pénétrait dans la cale, alors elle comprit le danger et dut prendre garde elle-même aux poutres et aux débris qui se détachaient du bâtiment. Par moments, il se faisait une telle obscurité qu'elle ne distinguait absolument rien. D'autres fois, les éclairs lui rendaient visibles les moindres détails de cette scène. L'agitation était à son comble sur le navire. Encore une secousse! Il se fendit tout à fait et elle vit le jeune prince s'engloutir dans la mer profonde. Transportée de joie, elle crut qu'il allait descendre dans sa demeure, mais elle se rappela que les hommes ne peuvent vivre dans l'eau et que par conséquent il arriverait mort au château de son père. Alors, pour le sauver, elle traversa à la nage les poutres et les planches éparses sur la mer, au risque de se faire écraser, plongea profondément sous l'eau, à plusieurs reprises, et ainsi, elle arriva jusqu'au jeune prince, au moment où ses forces commençaient à l'abandonner et où il fermait déjà les yeux, prêt de mourir. La petite sirène le saisit, soutint sa tête au-dessus de l'eau, puis s'abandonna avec lui aux caprices des vagues. Le lendemain matin, le beau temps était revenu, mais il ne restait plus rien du vaisseau. Un soleil rouge aux rayons pénétrants semblait rappeler la vie sur les joues du prince, mais ses yeux restaient toujours fermés. La sirène déposa un baiser sur son front et releva ses cheveux mouillés. Elle lui trouva une ressemblance avec la statue de marbre de son petit jardin et fit des vœux pour son salut. Elle passa devant la terre ferme, couverte de hautes montagnes bleues à la cime desquelles brillait la neige blanche. Au pied de la côte, au milieu d'une superbe forêt verte, s'étendait un village avec une église ou un couvent. En dehors des portes s'élevaient de grands palmiers et dans les jardins croissaient des orangers et des citronniers. Non loin de cet endroit, la mer formait un petit golfe, s'allongeant jusqu'à un rocher couvert d'un sable fin et blanc. C'est là que la sirène déposa le prince, ayant soin de lui tenir la tête haute et de la présenter aux rayons du soleil. Bientôt, les cloches de l'église commencèrent à sonner et une quantité de jeunes filles apparurent dans un des jardins. La petite sirène s'éloigna en nageant et se cacha derrière quelques grosses pierres pour observer ce qui arriverait au jeune prince. Quelques moments après, une des jeunes filles vint à passer devant lui. D'abord, elle parut s'effrayer, mais se remettant aussitôt, elle courut chercher d'autres personnes qui prodiguèrent au prince toute espèce de soins. La sirène le vit reprendre ses sens et sourire à tous ceux qui l'entouraient. À elle seule, il ne sourit pas, ignorant qu'il l'avait sauvée. Aussi, lorsqu'elle le vit conduire dans une grande maison, elle plongea tristement et retourna au château de son père. Elle avait toujours été silencieuse et réfléchie. À partir de ce jour-là, elle le devint encore davantage. Ses sœurs la questionnèrent sur ce qu'elle avait vu là-haut, mais elle ne raconta rien. Plus d'une fois, le soir et le matin, elle retourna à l'endroit où elle avait laissé le prince. Elle vit mûrir les fruits du jardin, elle vit fondre la neige sur les hautes montagnes, mais elle ne vit pas le prince, et elle retournait toujours plus triste au fond de la mer. Là, sa seule consolation était de s'asseoir dans son petit jardin et d'entourer de ses bras la jolie statuette de marbre qui ressemblait au prince, tandis que ses fleurs, négligées, oubliées, s'allongeaient dans les allées comme dans un lieu sauvage, entrelaçaient leurs longues tiges dans les branches des arbres et formaient ainsi des voûtes épaisses qui obstruaient la lumière. Enfin, cette existence lui devint insupportable. Elle confia tout à une de ses sœurs qui le raconta aussitôt à une autre, mais à elle seule, et à quelques autres sirènes qui ne le répétèrent qu'à leurs amis intimes. Il se trouva qu'une de ces dernières, ayant vu aussi la fête célébrée sur le vaisseau, connaissait le prince et savait l'endroit où était situé son royaume. « Viens, petite sœur !» dirent les autres princesses. Et s'entrelaçant les bras sur les épaules, elles s'élevèrent en file sur la mer devant le château du prince. Ce château était construit de pierres jaunes et luisantes. De grands escaliers de marbre conduisaient à l'intérieur et au jardin. Plusieurs dômes dorés brillaient sur le toit et entre les colonnes des galeries se trouvaient des statues de marbre qui paraissaient vivantes. Les salles, magnifiques, étaient ornées de rideaux et de tapis incomparables et les murs couverts de grandes peintures. Dans le grand salon, le soleil réchauffait à travers un plafond de cristal les plantes les plus rares qui poussaient dans un grand bassin au-dessous de plusieurs jets d'eau. Dès lors, la petite sirène revint souvent à cet endroit, la nuit comme le jour. Elle s'approchait de la côte et osait même s'asseoir sous le grand balcon de marbre qui projetait son ombre bien avant sur les eaux. De là, elle voyait au clair de la lune le jeune prince qui se croyait seul. Souvent, au son de la musique, il passa devant elle, dans un riche bateau pavoisé. Et ceux qui apercevaient son voile blanc dans les roseaux verts la prenaient pour un signe, ouvrant ses ailes. Elle entendait aussi les pêcheurs dire beaucoup de bien du jeune prince. Et alors, elle se réjouissait de lui avoir sauvé la vie. Qu'il l'ignora complètement. Son affection pour les hommes croissait de jour en jour. De jour en jour aussi, elle désirait davantage s'élever jusqu'à eux. Leur monde lui semblait bien plus vaste que le sien. Ils savaient franchir la mer avec des navires, grimper sur les hautes montagnes au-delà des nues. Ils jouissaient d'immenses forêts et de champs verdoyants. Ses sœurs, ne pouvant satisfaire toute sa curiosité, elle questionna sa vieille grand-mère, qui connaissait bien le monde plus élevé, celui qu'elle appelait à juste titre les pays au-dessus de la mer. « Si les hommes ne se noient pas, demanda la jeune princesse, est-ce qu'ils vivent éternellement? Ne meurent-ils pas comme nous ?»« Sans doute, répondit la vieille, ils meurent et leur existence est même plus courte que la nôtre. Nous autres, nous vivons quelquefois 300 ans, puis, cessant d'exister, nous nous transformons en écume. » Car au fond de la mer ne se trouve point de tombe pour recevoir les corps inanimés. Notre âme n'est pas immortelle. Avec la mort, tout est fini. Nous sommes comme les roseaux verts. Une fois coupés, ils ne verdissent plus jamais. Les hommes, au contraire, possèdent une âme qui vit éternellement, qui vit après que leur corps s'est changé en poussière. Cette âme monte à travers la subtilité de l'air, jusqu'aux étoiles qui brillent. Et de même que nous nous élevons du fond des eaux pour voir le pays des hommes, ainsi eux s'élèvent à de délicieux endroits, immenses, inaccessibles au peuple de la mer. Mais pourquoi n'avons-nous pas aussi une âme immortelle ? Dit la petite sirène affligée. Je donnerais volontiers les centaines d'années qui me restent à vivre pour être un homme, ne fût-ce qu'un jour, et participer ensuite au monde céleste.
Ne pense pas de pareilles sottises, répliqua la vieille.
Nous sommes bien plus heureux ici en bas que les hommes là-haut. Il faut donc un jour que je meure. Je ne serai plus qu'un peu d'écume. Pour moi, plus de murmures des vagues, plus de fleurs, plus de soleil. N'est-il donc aucun moyen pour moi d'acquérir une âme immortelle?
Un seul, mais à peu près impossible.
Il faudrait qu'un homme conçût pour toi un amour infini et que tu lui devinses plus cher que son père et sa mère. Alors, attaché à toi de toute son âme et de tout son cœur, s'il faisait unir par un prêtre sa main droite à la tienne en promettant une fidélité éternelle, son âme se communiquerait à ton corps et tu serais admise au bonheur des hommes.
Mais jamais une telle chose ne pourra se faire. Ce qui passe ici dans la mer pour la plus grande beauté, ta queue de poisson, il la trouve détestable sur la terre. Pauvre homme. Pour être beau, ils s'imaginent qu'il leur faut deux supports grossiers qu'ils appellent jambes.
La petite sirène soupira tristement en regardant sa queue de poisson. Soyons gais, dit la vieille. Sautons et amusons-nous le plus possible pendant les 300 années de notre existence. C'est, ma foi, un laps de temps assez gentil. Nous nous reposerons d'autant mieux après. Ce soir, il y a bal à la cour.